Dans ce deuxième épisode, on continue notre jazzette avec Daniel Gendron de MEH. On se rappelle ici de l'impact foudroyant de l'arrivée massive des ordinateurs personnels dans le joyeux monde de la typo. Joyeux podcast.
Parce qu'en même temps, l'industrie changeait beaucoup. Les agences devenaient computérisées. La typo commençait à se faire de plus en plus à l'agence. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé chez Ogilvy. Dans ce temps-là, c'était carrément du texte marqué par les DA. Il n'y avait pas de disquette dans ce moment-là.
Non, mais le texte était complètement ressaisi. On se faisait fournir des textes sur des feuilles.
Oui, c'est ça.
Des typettes.
C'est ça. Je me rappelle parce que je réalisais chez Ogilvy que ces textes-là étaient sur une disquette. Ça commençait. Fait que c'était pas un dactylo. Les textes étaient faits sur une disquette. J'étais comme... J'étais pas web encore, mais je trouvais ça assez weird que vous partiez avec le papier plutôt que la disquette. Puis au moins, c'est déjà typé.
Le problème, c'est qu'à cette époque-là, les systèmes se parlaient pas.
C'est ça, hein?
Chacun développait son base du code pour gérer de l'information. Il n'y avait pas de langage commun.
Parce que je me rappelle aussi, après, ben effectivement, on vous donnait des disquettes, vous partiez, vous reveniez avec des galettes de typo, puis des serges chez Pan qui coupaient la typo pour la mettre sur des mécaniques, puis toutes ces patentes-là. Serge Pilon, c'est ça? Ben oui. Ouais. Ça, c'était comme une autre étape, mais je me rappelle que chez Pan, entre autres, j'étais là à ce moment-là, Yvon Paquette, un des quatre partenaires, avait découvert les jouets de l'ordinateur, puis c'est lui qui avait commencé à rentrer les machines au studio et chez DA, puis ça change. En tout cas, ça changeait la façon de faire dramatiquement pour vous à peu près à cette période-là, right?
Non, seulement ça a changé. Écoute, ça l'a mis, ça l'a fragilisé l'industrie. Puis je te dirais, la majorité des joueurs n'ont pas survécu. Parce qu'ils ont, dans le fond, c'est qu'ils ont, nos compétiteurs à l'époque, avec du recul, ont réalisé qu'ils ont endossé le mauvais côté du changement. Donc, ils sont devenus uniquement une extension de ce que les agences faisaient eux-mêmes, parce qu'à l'époque, tu avais beau avoir le Macintosh pour monter ta job, tu n'étais pas capable de l'imprimer.
Ouais.
Il restait que le reste de la chaîne graphique était encore analogue, donc tu devais faire sortir des imprimés sur papier photographique qui nécessitaient des appareils bien trop dispendieux pour que les agences puissent en acheter, mais les typographes, ils les avaient, ces équipements-là.
Ouais.
Nous, c'est là-dessus qu'on imprimait depuis toujours. À ce moment-là, on appelait ça des linotroniques qui avaient le marché, là, des imprimantes comme ça. Les gens faisaient faire des sorties lino, on appelait.
Ouais.
Fait que les gens investissaient des centaines de milliers de dollars dans des imprimantes, des dizaines de milliers de dollars dans des processeurs, parce que s'il y avait de plus en plus de demandes, il y avait beaucoup de films, hein, de papier à développer. Dans une guerre de prix, là, je dis où le lino passait de 85$, il y avait un autre bord de la rue qui vendait 75$, puis il y en avait un autre en détresse, qui dit écoute-moi, là, j'en vais t'avoir 55$, c'est de rien avoir. Fait que ça a tiré le marché vers le bas.
Ah oui.
Dans un marché que c'était juste une question de temps avant que cette étape-là disparaisse.
Mm-hmm.
Ils sont devenus assez rapidement obsolètes parce que la suite de la chaîne graphique était le pré-presse. S'est mis à jour et s'est mis à traiter des fichiers numériques au lieu d'avoir des mechanicals analogues.
Mm.
Donc, nous, la décision qu'on a prise, ça a été de continuer à, si tu veux, à s'acharner, à trouver des clients qui étaient sensibles à la qualité. Parce qu'à cette époque-là, sincèrement, les agences le faisaient eux-mêmes, puis le niveau d'autosatisfaction compensait pour la qualité moyenne du rendu final. Tu comprends? Quand tu fais ton propre cabanon dans la cour, là,
il est beau.
Tu le trouves beau, là. Tu sais, mais si un constructeur de cabanon vient voir ton cabanon, il va aller voir. T'as un cabanon. Tu sais? C'est un peu contre ça qu'on se battait.
Mais oui.
Il fallait faire attention parce que c'est de dire aux gens, travaille avec moi parce que je pense que vous êtes pas bon. Mais ça n'a pas le bon message à passer.
C'est sûr.
Donc, on a dû trouver, faire la ville, identifier des agences ou des clients qui étaient sensibles à la qualité typographique. Parce que nous, étant donné que la typographie, c'est dans notre ADN, et ça l'est encore aujourd'hui grandement.
Oui.
Ça l'était à l'époque. On est heures-là à ce qu'on a fait, à ce qu'on faisait. Fait que donc, les clients qu'on réussissait à s'entendre avec, eux utilisaient la nouvelle technologie comme un outil de création et non pas un outil de production. Mm. Fait que donc, évidemment, MEH à cette époque-là est passé d'une shop de peut-être 45 employés à 17 employés. Au lieu d'avoir trois chiffres, on avait juste un chiffre. Moi-même, j'étais en réflexion de carrière.
Là. Ah oui, hein?
Parce que je l'ai fait de sens. Les clients étaient contents de faire leur propre job. C'était en train de s'implanter de façon importante dans le marché. Puis, on était prêts d'avoir les discussions qu'on avait à l'époque avec les créatifs.
Les créatifs, étaient-tu impliqués dans cette réflexion-là? Parce que je présume que, bon, il y a peut-être des early adopters comme Yvon qui voulait jouer un peu plus là-dessus, mais Yvon, c'était aussi quelqu'un de très sensible au design et à la création. Fait que selon moi, ça doit être plus les comptables qui ont décidé de rentrer ça en se disant, ben regarde, tant qu'à payer une fortune à des fournisseurs extérieurs, on va se faire ça nous autres-mêmes, je suis capable. Puis quand tu dis, vous autres, vous avez misé sur le know-how, les skills, le craftsmanship, quand vous avez décidé de focusser sa qualité, je présume que ce langage-là, ce discours-là, devait surtout parler à des créatifs qui étaient peut-être frustrés de voir que le niveau baissait.
Absolument. Mais écoute, c'était dans le cas de Boss, puis après ça, relativement rapidement, après ça, c'était le cas de Diesel, qui est devenu Multicity.
Oui.
Sont deux agences qui étaient managées en grande partie par des créatifs. Oui. Des gens très, très, très sensibles à la qualité. Malgré que ce n'était pas des gens qui étaient allergiques à l'argent, là, parce que évidemment, de travailler avec nous autres, il y avait aussi des incentives financiers.
Ouais.
Mais ce que ces gens-là réalisaient, c'est qu'ils l'ont un peu comme essayé, si tu veux, là, de devenir un peu autosuffisant.
Mm-hmm.
Puis relativement rapidement, comment je peux bien dire ça? C'est encore vrai aujourd'hui. Les agences vont réussir à le faire. Le jour 1, ils vont se trouver un excellent directeur studio, un excellent infographiste, s'ils ont le volume nécessaire, un excellent retoucheur, correction des preuves, bon, peut-être un peu moins de finesse typographique, mais ça, ça se perd. Ça se perd. C'est pas tout le monde qui en veut plus, mais je veux dire, c'est de moins en moins considéré là, dans toute la patente.
Mm.
Fait que, jour 1, ils vont avoir un bon studio. Reviens-moi au bout de 3 ans, reviens-moi au bout de 5 ans. Là. Moi, je vais l'occuper ton studio, puis je vais dire, c'est-tu quoi? 5 ans plus tard, tu fais encore les choses comme le jour 1. Tu comprends? Pourquoi? Ouais. Parce que peut-être qu'en cours de route, tu as perdu ton directeur studio. Ton directeur studio, il est peut-être moins motivé qu'il était. Tu fais encore le travail correctement. Je veux dire, mais tu n'es pas en avant de la parade, là.
Mm.
Tu es à la traînée en arrière. Tandis que nous, en tant que provider de ce type de service-là, on se doit toujours être à la fine pointe. Là. Je veux dire, l'effort et les budgets de formation chez nous sont énormes. La technologie ne cesse d'avancer. Mais après ça, chez MH, on a la chance d'avoir l'achalandage pour réellement offrir à nos clients des spécialistes dans chaque domaine. Fait que ta job est adressée. Peu importe le volume, mettons, c'est de la job, tu peux avoir une toute petite image dans le coin de ton affiche, mais je veux dire, écoute, l'image, là, ça va être parfaite, les couleurs vont être calibrées, la résolution va être impeccable. Chaque étape, peu importe le multidiscipline, est toujours adressée par des experts.
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si le cœur vous en dit, poursuivons cette conversation sur Twitter via le hashtag GrenierMag et mon identifiant PizzaForAll. Pour écouter d'autres PizzCasts, rendez-vous sur le Grenier aux Nouvelles. Vous pouvez également me retrouver dans la section podcast d'iTunes sous Das PizzCast. Ou bien, venez donc faire un petit tour sur mon site web, miron.co. À la prochaine!